Petit et maigre, Gracelin avait une épaisse chevelure noire, semblable au crin d'un houssoir, qui faisait vigoureusement ressortir son visage rouge, comme celui d'un ivrogne émérite, et couvert de boutons âcres, saignants ou prêts à percer. Sans être ni la lèpre ni la dartre, ces fruits d'un sang échaudé par un travail continu, par les inquiétudes, par la rage du commerce, par l'éveil, par la sobriété, par une vie sage, semblait tenir de ces deux maladies. Malgré les avis de ses associés, de ses commis et de son médecin, le banquier n'avait jamais su s'astreindre aux précautions médicales qui eussent prévenu, tempéré cette maladie, d'abord légère et qui s'aggravait de jour en jour. Il voulait guérir. Il prenait des bains pendant quelques jours, il buvait la boisson ordonnée, mais emporté par le courant des affaires, il oubliait le soin de sa personne. Il pensait à suspendre ses affaires pendant quelques jours, à voyager, à se soigner aux eaux. Mais quel est le chasseur de millions qui s'arrête? Dans cette face ardente brillaient deux yeux gris, tigré de fils verdâtres partant de la prunelle et semé de points bruns. Deux yeux avides, deux yeux vifs qui allaient au fond du cœur. Deux yeux implacables, pleins de résolution, de rectitude, de calcul. Gracelin avait un nez retroussé, une bouche à grosses lèvres lipues, un front cambré, des pommettes rieuses, des oreilles épaisses à larges bords corrodés par la crottée du sang. Enfin, c'était le satyre antique, un faune en redingote, en gilet de satin noir, le cou serré d'une cravate blanche. Les épaules fortes et nerveuses, qui jadis avaient porté des fardeaux, étaient déjà voûtées, et sous ce buste excessivement développé s'agitaient des jambes grêles, assez mal emmanchées à des cuisses courtes. Les mains maigres et velues montraient les doigts crochus des gens habitués à compter des écus. Les plis du visage allaient des pommettes à la bouche, par sillons égaux, comme chez tous les gens occupés d'intérêts matériels. L'habitude des décisions rapides se voyait dans la manière dont les sourcils étaient rehaussés vers chaque lobe du front. Quoique sérieuse et serrée, la bouche annonçait une bonté cachée, une âme excellente, enfouie sous les affaires, étouffée peut-être, mais qui pouvait renaître au contact d'une femme. À cette apparition, le cœur de Véronique se contracta violemment. Il lui passa du noir devant les yeux. Elle crut avoir crié. Mais elle était restée muette, le regard fixe. « Véronique, voici Monsieur Gracelin, » lui dit alors le vieux Sauvia. Véronique se leva, salua, retomba sur sa chaise et regarda sa mère qui souriait au millionnaire et qui paraissait, ainsi que Sauvia, si heureuse, mais si heureuse que la pauvre fille trouva la force de cacher sa surprise et sa violente répulsion. Dans la conversation qui eut lieu, il fut question de la santé de Gracelin. Le banquier se regarda naïvement dans le miroir à tailles onglées et à cadre d'ébène. « Je ne suis pas beau, mademoiselle, » dit-il. Et il expliqua les rougeurs de sa figure par sa vie ardente. Il raconta comment il désobéissait aux ordres de la médecine. Il se flatta de changer de visage dès qu'une femme commanderait dans son ménage et aurait plus de soin de lui que lui-même. « Est-ce qu'on épouse un homme pour son visage, pays ?» dit le vieux ferrailleur en donnant à son compatriote une énorme tape sur la cuisse. L'explication de Gracelin s'adressait à ses sentiments naturels, dont est plus ou moins rempli le cœur de toute femme. Véronique pensa qu'elle-même avait un visage détruit par une horrible maladie, et sa modestie chrétienne la fit revenir sur sa première impression. En entendant un sifflement dans la rue, Gracelin descendit, suivi de Sauvia inquiet. Tous deux remontèrent promptement. Le garçon de peine apportait un premier bouquet de fleurs, qui s'était fait attendre. Quand le banquier montra ce monceau de fleurs exotiques, dont les parfums envahirent la chambre, et qu'il l'offrit à sa future, Véronique éprouva des émotions bien contraires à celles que lui avait causées le premier aspect de Gracelin. Elle fut comme plongée dans le monde idéal et fantastique de la nature tropicale. Elle n'avait jamais vu de camélia blanc. Elle n'avait jamais senti le citise des Alpes. La citronnelle, le jasmin des Açores, les volcaméria, les roses musquées, toutes odeurs divines qui sont comme l'excitant de la tendresse et qui chantent au cœur des hymnes de parfum. Gracelin laissa Véronique en proie à cette émotion. Depuis le retour du ferrailleur, quand tout dormait dans Limoges, le banquier se coulait le long des murs jusqu'à la maison du père Sauvia. Il frappait doucement au volet, le chien n'aboyait pas, le vieillard descendait, ouvrait à son pays, et Gracelin passait une heure ou deux dans la pièce brune auprès de Véronique. Là, Gracelin trouva toujours son souper d'Auvergnat servi par la mère Sauvia. Jamais ce singulier amoureux n'arriva sans offrir à Véronique un bouquet composé des fleurs les plus rares, cueilli dans la serre de Monsieur Grosse-Tête, la seule personne de Limoges qui fut dans le secret de ce mariage. Le garçon de peine allait chercher nuitamment le bouquet que faisait le vieux Grosse-Tête, lui-même. En 2 mois, Gracelin vint 50 fois environ. Chaque fois, il apporta quelques riches présents. Des anneaux, une montre, une chaîne d'or, un nécessaire, etc. Ces prodigalités incroyables, un mot les justifiera. La dot de Véronique se composait de presque toute la fortune de son père. 750 000 francs. Le vieillard gardait une inscription de 8 000 francs sur le grand livre, acheté pour 60 000 livres en assignat par le compère Brézac, à qui, lors de son emprisonnement, il les avait confiés, et qui la lui avait toujours gardée, en le détournant de la vendre. Ces 60 000 livres en assignat étaient la moitié de la fortune de Sauvia, au moment où il courut le risque de périr sur l'échafaud. Brézac avait été, dans cette circonstance, le fidèle dépositaire du reste, consistant en 700 louis d'or, somme énorme avec laquelle l'Auvergnat se remit à opérer dès qu'il eut recouvré sa liberté. En 30 ans, chacun de ces louis s'était changé en un billet de 1 000 francs, à l'aide toutefois de la rente du grand livre, de la succession champagnac, des bénéfices accumulés du commerce et des intérêts composés qui grossissaient dans la maison Brézac. Brézac avait pour Sauvia une probe amitié, comme en ont les Auvergnats entre eux. Aussi, quand Sauvia allait voir la façade de l'hôtel Gracelin, se disait-il en lui-même, Véronique demeurera dans ce palais. Il savait qu'aucune fille en Limousin n'avait 750 000 francs en mariage et 250 000 francs en espérance. Gracelin, son gendre d'élection, devait donc infailliblement épouser Véronique. Véronique eut tous les soirs un bouquet qui, le lendemain, parait son petit salon et qu'elle cachait aux voisins. Elle admira ses délicieux bijoux, ses perles, ses diamants, ses bracelets, ses rubis qui plaisent à toutes les filles d'Ève. Elle se trouvait moins laide ainsi parée. Elle vit sa mère heureuse de ce mariage et n'eut aucun terme de comparaison. Elle ignorait d'ailleurs les devoirs, la fin du mariage. Enfin, elle entendit la voix solennelle du vicaire de Saint-Étienne, lui vantant Gracelin comme un homme d'honneur, avec qui elle mènerait une vie honorable. Véronique consentit donc à recevoir les soins de M. Gracelin. Quand, dans une vie recueillie et solitaire comme celle de Véronique, il se produit une seule personne qui vient tous les jours, cette personne ne saurait être indifférente. Ou elle est haïe, et la version justifiée par la connaissance approfondie du caractère la rend insupportable, ou l'habitude de la voir blase, pour ainsi dire, les yeux sur les défauts corporels. L'esprit cherche des compensations. Cette physionomie occupe la curiosité. D'ailleurs, les traits s'animent. Il en sort quelques beautés fugitives. Puis on finit par découvrir l'intérieur caché sous la forme. Enfin, les premières impressions, une fois vaincues, l'attachement prend d'autant plus de force que l'âme s'y obstine comme à sa propre création. On aime. Là est la raison des passions conçues par de belles personnes pour des êtres laids en apparence. La forme, oubliée par l'affection, ne se voit plus chez une créature dont l'âme est alors seule appréciée. D'ailleurs, la beauté, si nécessaire à une femme, prend chez l'homme un caractère si étrange qu'il y a peut-être autant de dissentiments entre les femmes sur la beauté de l'homme qu'entre les hommes sur la beauté des femmes. Après 1000 réflexions, après bien des débats avec elle-même, Véronique laissa donc publier les bans. Dès lors, il ne fut bruit dans tout Limoges que cette aventure incroyable. Personne ne connaissait le secret, l'énormité de la dot. Si cette dot eût été connue, Véronique aurait pu choisir un mari, mais peut-être aussi eût-elle été trompée. Gracelin passait pour s'être pris d'amour. Il vint des tapissiers de Paris, qui arrangèrent la belle maison. On ne parla dans Limoges que des profusions du banquier. On chiffrait la valeur des lustres. On racontait les dorures du salon, les sujets des pendules. On décrivait les jardinières, les chauffeuses, les objets de luxe, les nouveautés. Dans le jardin de l'hôtel Gracelin, il y avait au-dessus d'une glacière une volière délicieuse, et chacun fut surpris d'y voir des oiseaux rares, des perroquets, des faisans de la Chine, des canards inconnus, car on vint les voir. Monsieur et Madame Grosse-Tête, vieilles gens considérés dans Limoges, firent plusieurs visites chez les Sauvia, accompagnés de Gracelin. Madame Grosse-Tête, femme respectable, félicita Véronique sur son heureux mariage. Ainsi l'Église, la famille, le monde, tout jusqu'aux moindres choses, fut complice de ce mariage. Au mois d'avril, les invitations officielles furent remises chez toutes les connaissances de Gracelin. Par une belle journée, une calèche et un coupé, attelés à l'anglaise de chevaux limousins choisis par le vieux Grosse-Tête, arrivèrent à 11 heures devant la modeste boutique du ferrailleur, amenant au grand émoi du quartier les anciens patrons du marié et ses deux commis. La rue fut pleine de monde accouru pour voir la fille des Sauvia, à qui le plus renommé coiffeur de Limoges avait posé sur ses beaux cheveux la couronne des mariés et un voile de dentelle d'Angleterre du plus haut prix. Véronique était simplement mise en mousseline blanche. Une assemblée assez imposante des femmes les plus distinguées de la ville attendait la noce à la cathédrale, où l'évêque, connaissant la piété des Sauvia, daignait marier Véronique. La mariée fut trouvée généralement laide. Elle entra dans son hôtel et y marcha de surprise en surprise. Un dîner d'apparat devait précéder le bal, auquel Gracelin avait invité presque tout Limoges. Le dîner, donné à l'évêque, au préfet, au président de la cour, au procureur général, au maire, au général, aux anciens patrons de Gracelin et à leurs femmes, fut un triomphe pour la mariée, qui, semblable à toutes les personnes simples et naturelles, montra des grâces inattendues. Aucun des mariés ne savait danser. Véronique continua donc de faire les honneurs de chez elle, et se concilia l'estime, les bonnes grâces, de la plupart des personnes avec lesquelles elle fit connaissance, en demandant à Grosse-Tête, qui se prit de belle amitié pour elle, des renseignements sur chacun. Elle ne commit ainsi aucune méprise. Ce fut pendant cette soirée que les deux anciens banquiers annoncèrent la fortune immense en Limousin donnée par le vieux Sauvia à sa fille. Dès 9 heures, le ferrailleur était allé se coucher chez lui, laissant sa femme présider au coucher de la mariée. Il fut dit dans toute la ville que Madame Graslin était laide, mais bien faite. Le vieux Sauvia liquida ses affaires et vendit alors sa maison à la ville. Il acheta sur la rive gauche de la Vienne une maison de campagne située entre Limoges et Clusot, à 10 minutes du faubourg Saint-Martial, où il voulut finir tranquillement ses jours avec sa femme. Les deux vieillards eurent un appartement dans l'hôtel Graslin et dînèrent une ou deux fois par semaine avec leur fille, qui prit souvent leur maison pour but de promenade. Ce repos faillit tuer le vieux ferrailleur. Heureusement, Graslin trouva le moyen d'occuper son beau-père. En 1825, le banquier fut obligé de prendre à son compte une manufacture de porcelaine, au propriétaire de laquelle il avait avancé de fortes sommes, et qui ne pouvait les lui rendre qu'en vendant leur établissement. Par ses relations et en y versant des capitaux, Graslin fit de cette fabrique une des premières de Limoges, puis il la revendit avec de gros bénéfices 3 ans après. Il donna donc la surveillance de ce grand établissement, situé précisément dans le faubourg Saint-Martial, à son beau-père, qui, malgré ses 72 ans, fut pour beaucoup dans la prospérité de cette affaire, et s'y rajeunit. Graslin put alors conduire ses affaires en ville, et n'avoir aucun souci d'une manufacture qui, sans l'activité passionnée du vieux Sauvia, l'aurait obligé peut-être à s'associer avec un de ses commis et à perdre une portion des bénéfices qu'il y trouva, tout en sauvant ses capitaux engagés. Sauvia mourut en 1827, par accident. En présidant à l'inventaire de la fabrique, il tomba dans une charasse, espèce de boîte à claire-voie où s'emballent les porcelaines. Il se fit une blessure légère à la jambe et ne la soigna pas. La gangrène s'y mit, il ne voulut jamais se laisser couper la jambe et mourut. La veuve abandonna 250 000 francs environ, dont se composait la succession de Sauvia, en se contentant d'une rente de 200 francs par mois, qui suffisait amplement à ses besoins, et que son gendre prit l'engagement de lui servir. Elle garda sa petite maison de campagne, où elle vécut seule et sans servante, sans que sa fille pût la faire revenir sur cette décision, maintenue avec l'obstination particulière aux vieilles gens. La mère Sauvia vint voir d'ailleurs presque tous les jours sa fille, de même que sa fille continua de prendre pour but de promenade la maison de campagne d'où l'on jouissait d'une charmante vue sur la Vienne. De là se voyait cette île affectionnée par Véronique, et de laquelle elle avait fait jadis son île de France. Pour ne pas troubler par ces incidents l'histoire du ménage Graslin, il a fallu terminer celle des Sauvia en anticipant sur ces événements, utile cependant à l'explication de la vie cachée que mena Madame Graslin. La vieille mère, ayant remarqué combien l'avarice de Graslin pouvait gêner sa fille, s'était longtemps refusée à se dépouiller du reste de sa fortune. Mais Véronique, incapable de prévoir un seul des cas où les femmes désirent la jouissance de leurs biens, insista par des raisons pleines de noblesse. Elle voulut alors remercier Graslin de lui avoir rendu sa liberté de jeune fille. La splendeur insolite qui accompagna le mariage de Graslin avait froissé toutes ses habitudes et contrarié son caractère. Ce grand financier était un très petit esprit. Véronique n'avait pas pu juger l'homme avec lequel elle devait passer sa vie. Durant ses 55 visites, Graslin n'avait jamais laissé voir que l'homme commercial, le travailleur intrépide qui concevait, devinait, soutenait les entreprises, analysait les affaires publiques en les rapportant toutefois à l'échelle de la banque. Fasciné par le million du beau-père, le parvenu se montra généreux par calcul. Mais s'il fit grandement les choses, il fut entraîné par le printemps du mariage et par ce qu'il nommait sa folie, par cette maison encore appelée aujourd'hui l'hôtel Graslin. Après s'être donné des chevaux, une calèche, un coupé, naturellement il s'en servit pour rendre ses visites de mariage, pour aller à ses dîners et à ses bals, nommés retour de noces, que les sommités administratives et les maisons riches rendirent aux nouveaux mariés. dans le mouvement qui l'emportait en dehors de sa sphère. Gracelin prit un jour de réception et fit venir un cuisinier de Paris. Pendant une année environ, il mena donc le train que devait mener un homme qui possédait 1 600 000 francs et qui pouvait disposer de 3 millions en comprenant les fonds qu'on lui confiait. Il fut alors le personnage le plus marquant de Limoges. Pendant cette année, il mit généreusement 25 pièces de 20 francs tous les mois dans la bourse de Madame Gracelin. Le beau monde de la ville s'occupa beaucoup de Véronique au commencement de son mariage. Espèce de bonne fortune pour la curiosité, presque toujours sans aliment en province. Véronique fut d'autant plus étudiée qu'elle apparaissait dans la société comme un phénomène, mais elle y demeura dans l'attitude simple et modeste d'une personne qui observait des mœurs, des usages, des choses inconnues en voulant s'y conformer. Déjà proclamée laide, mais bien faite, elle fut regardée comme bonne, mais stupide. Elle apprenait tant de choses, elle avait tant à écouter et à voir, que son air, ses discours prêtèrent à ce jugement une apparence de justesse. Elle eut d'ailleurs une sorte de torpeur qui ressemblait au manque d'esprit. Le mariage, ce dur métier, disait-elle, pour lequel l'Église, le code et sa mère lui avaient recommandé la plus grande résignation, sous peine de faillir à toutes les lois humaines et de causer d'irréparables malheurs, la jeta dans un étourdissement qui atteignit parfois un délire vertigineux. Silencieuse et recueillie, elle s'écoutait autant qu'elle écoutait les autres. En éprouvant la plus violente difficulté d'être, selon l'expression de Fontenelle, et qui allait croissant, elle était épouvantée d'elle-même. La nature regimba sur les ordres de l'âme, et le corps méconnut la volonté. La pauvre créature, prise au piège, pleura sur le sein de la grande mère des pauvres et des affligés. Elle eut recours à l'Église, elle redoubla de ferveur, elle confia les embûches du démon à son vertueux directeur, elle pria. Jamais, en aucun temps de sa vie, elle ne remplit ses devoirs religieux avec plus d'élan qu'alors. Le désespoir de ne pas aimer son mari la précipitait avec violence au pied des autels, où des voix divines et consolatrices lui recommandaient la patience. Elle fut patiente et douce. Elle continua de vivre en attendant les bonheurs de la maternité. « Avez-vous vu ce matin Madame Gracelin ?» disaient les femmes entre elles. Le mariage ne lui réussit pas. Elle était verte. Oui, mais auriez-vous donné votre fille à un homme comme M. Gracelin? On n'épouse point impunément un pareil monstre. Depuis que Gracelin s'était marié, toutes les mères qui, pendant 10 ans, l'avaient pourchassé, l'accablaient d'épigrammes. Véronique maigrissait et devenait réellement laide. Ses yeux se fatiguèrent, ses traits grossirent, elle parut honteuse et gênée. Ses regards offrirent cette triste froideur, tant reprochée aux dévotes. Sa physionomie prit des teintes grises. Elle se traîna languissamment pendant cette première année de mariage, ordinairement si brillante pour les jeunes femmes. Aussi chercha-t-elle bientôt des distractions dans la lecture, en profitant du privilège qu'ont les femmes mariées de tout lire. Elle lut les romans de Walter Scott, les poèmes de Lord Byron, les œuvres de Schiller et de Goethe, enfin la nouvelle et l'ancienne littérature. Elle apprit à monter à cheval, à danser et à dessiner. Elle lava des aquarelles et des sépias, recherchant avec ardeur toutes les ressources que les femmes opposent aux ennuis de la solitude. Enfin, elle se donna cette seconde éducation que les femmes tiennent presque toutes d'un homme, et qu'elle ne tint que d'elle-même. La supériorité d'une nature franche, libre, élevée comme dans un désert, mais fortifiée par la religion, lui avait imprimé une sorte de grandeur sauvage, et des exigences auxquelles le monde de la province ne pouvait offrir aucune pâture. Tous les livres lui peignaient l'amour, elle cherchait une application à ses lectures, et n'apercevait de passion nulle part. L'amour restait dans son cœur à l'état de ces germes qui attendent un coup de soleil. Sa profonde mélancolie, engendrée par de constantes méditations sur elle-même, la ramena par des sentiers obscurs aux rêves brillants de ses derniers jours de jeune fille. Elle dut contempler plus d'une fois ses anciens poèmes romanesques, en en devenant alors à la fois le théâtre et le sujet. Elle revit cette île baignée de lumière, fleurie, parfumée où tout lui caressait l'âme. Souvent, ses yeux pâlis embrassèrent les salons avec une curiosité pénétrante. Les hommes y ressemblaient tous à Gracelin. Elle les étudiait et semblait interroger leurs femmes. Mais en apercevant aucune de ces douleurs intimes répétées sur les figures, elle revenait sombre et triste, inquiète d'elle-même. Les auteurs qu'elle avait lus le matin répondaient à ses plus hauts sentiments. Leur esprit lui plaisait, et le soir elle entendait des banalités qu'on ne déguisait même pas sous une forme spirituelle. Des conversations sottes, vides, ou remplies par des intérêts locaux, personnels, sans importance pour elle. Elle s'étonnait de la chaleur déployée dans des discussions où il ne s'agissait point de sentiments. Pour elle, l'âme de la vie. On la vit souvent les yeux fixes, hébétée, pensant sans doute aux heures de sa jeunesse ignorante, passer dans cette chambre pleine d'harmonie. Alors détruite comme elle, elle sentit une horrible répugnance à tomber dans le gouffre de petitesse, où tournaient les femmes parmi lesquelles elle était forcée de vivre. Ce dédain écrit sur son front, sur ses lèvres, et mal déguisé, fut pris pour l'insolence d'une parvenue. Madame Gracelin observa sur les visages une froideur et sentit dans tous les discours une âcreté dont les raisons lui furent inconnues, car elle n'avait pas encore pu se faire une amie assez intime pour être éclairée ou conseillée par elle. L'injustice qui révolte les petits esprits ramène en elle-même les âmes élevées et leur communique une sorte d'humilité. Véronique se condamna, chercha ses torts. Elle voulut être affable, on la prétendit fausse. Elle redoubla de douceur, on la fit passer pour hypocrite. Et sa dévotion venait en aide à la calomnie. Elle fit des frais, elle donna des dîners et des bals, elle fut taxée d'orgueil. Malheureuse dans toutes ses tentatives, mal jugée, repoussée par l'orgueil bas et taquin qui distingue la société de province, où chacun est toujours armé de prétentions et d'inquiétudes, Madame Gracelin rentra dans la plus profonde solitude. Elle revint avec amour dans les bras de l'Église. Son grand esprit, entouré d'une chair si faible, lui fit voir dans les commandements multipliés du catholicisme autant de pierres plantées le long des précipices de la vie, autant de tuteurs apportés par de charitables mains pour soutenir la faiblesse humaine durant le voyage. Elle suivit donc avec la plus grande rigueur les moindres pratiques religieuses. Le Parti libéral inscrivit alors Madame Gracelin au nombre des dévotes de la ville. Elle fut classée parmi les ultras. Aux différents griefs que Véronique avait innocemment amassés, l'esprit de parti joignit donc ses exaspérations périodiques. Mais comme elle ne perdait rien à cet ostracisme, elle abandonna le monde et se jeta dans la lecture qui lui offrait des ressources infinies. Elle médita sur les livres, elle compara les méthodes, elle augmenta démesurément la portée de son intelligence et l'étendue de son instruction. Elle ouvrit ainsi la porte de son âme à la curiosité. Durant ce temps d'études obstinées où la religion maintenait son esprit, elle obtint l'amitié de M. Grosstedt, un de ces vieillards chez lesquels la vie de province a rouillé la supériorité, mais qui, au contact d'une vive intelligence, reprennent par place quelques brillants. Le bonhomme s'intéressa vivement à Véronique, qui le récompensa de cette onctueuse et douce chaleur de cœur particulière au vieillard, en déployant pour lui le premier les trésors de son âme et les magnificences de son esprit, cultivés si secrètement, et alors chargé de fleurs. Le fragment d'une lettre écrite en ce temps à M. Grosstedt peindra la situation où se trouvait cette femme, qui devait donner un jour les gages d'un caractère si ferme et si élevé. Les fleurs que vous m'avez envoyées pour le bal étaient charmantes, mais elles m'ont suggéré de cruelles réflexions. Ces jolies créatures cueillies par vous et destinées à mourir sur mon sein et dans mes cheveux en ornant une fête m'ont fait songer à celles qui naissent et meurent dans vos bois sans avoir été vues et dont les parfums n'ont été respirés par personne. Je me suis demandé pourquoi je dansais, pourquoi je me parais, de même que je demande à Dieu pourquoi je suis dans ce monde. Vous le voyez, mon ami, tout est piégé pour le malheureux. Les moindres choses ramènent les malades à leur mal. Mais le plus grand tort de certains mots est la persistance qui les fait devenir une idée. Une douleur constante n'est-elle pas alors une pensée divine? Vous aimez les fleurs pour elles-mêmes, tandis que je les aime comme j'aime à entendre une belle musique. Ainsi, comme je vous le disais, le secret d'une foule de choses me manque. Vous, mon vieil ami, vous avez une passion, vous êtes horticulteur. À votre retour en ville, communiquez-moi votre goût. Faites que j'aille à ma serre, d'un pied agile comme vous allez à la vôtre. Contemplez les développements des plantes. Vous épanouir et fleurir avec elles. Admirez ce que vous avez créé. Voir des couleurs nouvelles, inespérées qui s'étalent et croissent sous vos yeux par la vertu de vos soins. Je sens un ennui navrant. Ma serre à moi ne contient que des âmes souffrantes. Les misères que je m'efforce de soulager m'attristent l'âme, et quand je les épouse, quand après avoir vu quelques jeunes femmes sans linge pour son nouveau-né, quelques vieillards sans pain, j'ai pourvu à leurs besoins. Les émotions que m'a causé leur détresse calmée ne suffisent pas à mon âme. Ah, mon ami, je sens en moi des forces superbes, et malfaisantes peut-être, que rien ne peut humilier, que les plus durs commandements de la religion n'abattent point. En allant voir ma mère et me trouvant seul dans la campagne, il me prend des envies de crier, et je crie. Il semble que mon corps est la prison où quelque mauvais génie retient une créature gémissant et attendant les paroles mystérieuses qui doivent briser une forme importune. Mais la comparaison n'est pas juste. Chez moi, n'est-ce pas au contraire le corps qui s'ennuie, si je puis employer cette expression? La religion n'occupe-t-elle pas mon âme? La lecture et ses richesses ne nourrissent-elles pas incessamment mon esprit? Pourquoi désirais-je une souffrance qui romprait la paix énervante de ma vie? Si quelque sentiment, quelque manie à cultiver ne vient à mon aide. Je me sens aller dans un gouffre où toutes les idées s'émoussent, où le caractère s'amoindrit, où les ressorts se détendent, où les qualités s'assouplissent, où toutes les forces de l'âme s'éparpillent, et où je ne serai plus l'être que la nature a voulu que je sois. Voilà ce que signifient mes cris. Que ces cris ne vous empêchent pas de m'envoyer des fleurs. Votre amitié est si douce et si bienveillante m'a depuis quelques mois réconcilié avec moi-même. Oui, je me trouve heureuse de savoir que vous jetez un coup d'œil ami sur mon âme, à la fois déserte et fleurie, que vous avez une parole douce pour accueillir à son retour la fugitive à demi brisée qui a monté le cheval fougueux du rêve. À l'expiration de la troisième année de son mariage, Gracelin, voyant sa femme ne plus se servir de ses chevaux et trouvant un bon marché, les vendit. Il vendit les voitures, renvoya le cocher, se laissa prendre son cuisinier par l'évêque et le remplaça par une cuisinière. Il ne donna plus rien à sa femme, en lui disant qu'il paierait tous ses mémoires. Il fut le plus heureux mari du monde, en ne rencontrant aucune résistance à ses volontés, chez cette femme qui lui avait apporté un million de fortune. Madame Gracelin, nourrie, élevée sans connaître l'argent, sans être obligée de le faire entrer comme un élément indispensable dans la vie, était sans mérite dans son abnégation. Gracelin retrouva dans un coin du secrétaire les sommes qu'il avait remises à sa femme, moins l'argent des aumônes et celui de la toilette, laquelle fut peu dispendieuse à cause des profusions de la corbeille de mariage. Gracelin vanta Véronique à tout Limoges comme le modèle des femmes. Il déplora le luxe de ses ameublements et fit tout empaqueter. La chambre, le boudoir et le cabinet de toilette de sa femme furent exceptés de ces mesures conservatrices, qui ne conservèrent rien, car les meubles s'usent aussi bien sous les housses que sans les housses. Il habita le rez-de-chaussée de sa maison, où ses bureaux étaient établis. Il y reprit sa vie, en chassant aux affaires avec la même activité que par le passé. L'Auvergnat se crut un excellent mari d'assister au dîner et au déjeuner préparé par les soins de sa femme. Mais son inexactitude fut si grande qu'il ne lui arriva pas 10 fois par mois de commencer les repas avec elle. Aussi, par délicatesse, exigea-t-il qu'elle ne l'attendît point. Néanmoins, Véronique restait jusqu'à ce que Gracelin fût venu, pour le servir elle-même, voulant au moins accomplir ses obligations d'épouse en quelques points visibles. Jamais le banquier, à qui les choses du mariage étaient assez indifférentes, et qui n'avait vu que 750 000 francs dans sa femme, ne s'aperçut des répulsions de Véronique. Insensiblement, il abandonna Madame Gracelin pour les affaires. Quand il voulut mettre un lit dans une chambre attenante à son cabinet, elle s'empressa de le satisfaire. Ainsi, 3 ans après leur mariage, ces deux êtres mal assortis se retrouvèrent chacun dans leur sphère primitive, heureux l'un et l'autre d'y retourner. L'homme d'argent, riche de 1 800 000 francs, revint avec d'autant plus de force à ses habitudes avaricieuses qu'il les avait momentanément quittées. Ses deux commis et son garçon de peine furent mieux logés, un peu mieux nourris. Telle fut la différence entre le présent et le passé. Sa femme eut une cuisinière et une femme de chambre, deux domestiques indispensables. Mais, excepté le strict nécessaire, il ne sortit rien de sa caisse pour son ménage. Heureuse de la tournure que les choses prenaient, Véronique vit dans le bonheur du banquier les compensations de cette séparation qu'elle n'eût jamais demandée. Elle ne savait pas être aussi désagréable à Gracelin que Gracelin était repoussant pour elle. Ce divorce secret la rendit à la fois triste et joyeuse. Elle comptait sur la maternité pour donner un intérêt à sa vie. Mais malgré leur résignation mutuelle, les deux époux avaient atteint l'année 1828 sans avoir d'enfant. Ainsi, au milieu de sa magnifique maison, et enviée par toute une ville, Madame Gracelin se trouva dans la solitude où elle était dans le bouge de son père. Moins l'espérance, moins les joies enfantines de l'ignorance. Elle y vécut dans les ruines de ses châteaux en Espagne, éclairée par une triste expérience, soutenue par sa foi religieuse, occupée des pauvres de la ville qu'elle combla de bienfaits. Elle faisait des layettes pour les enfants, elle donnait des matelas et des draps à ceux qui couchaient sur la paille. Elle allait partout suivie de sa femme de chambre, une jeune auvergnate que sa mère lui procura, et qui s'attacha corps et âme à elle. Elle en fit un vertueux espion, chargé de découvrir les endroits où il y avait une souffrance à calmer, une misère à adoucir. Cette bienfaisance active, mêlée au plus strict accomplissement des devoirs religieux, fut ensevelie dans un profond mystère et dirigée d'ailleurs par les curés de la ville, avec qui Véronique s'entendait pour toutes ses bonnes œuvres, afin de ne pas laisser perdre entre les mains du vice l'argent utile à des malheurs immérités. Pendant cette période, elle conquit une amitié tout aussi vive, tout aussi précieuse que celle du vieux Grosse-Tête. Elle devint l'ouaille bien-aimée du prêtre supérieur, persécuté pour son mérite incompris, un des grands vicaires du diocèse, nommé l'abbé Dutheil. Ce prêtre appartenait à une minime portion du clergé français qui penche vers quelques concessions, qui voudrait associer l'Église aux intérêts populaires pour lui faire reconquérir, par l'application des vraies doctrines évangéliques, son ancienne influence sur les masses, qu'elle pourrait alors relier à la monarchie. Soit que l'abbé Dutheil eût reconnu l'impossibilité d'éclairer la cour de Rome et le haut clergé, soit qu'il eût sacrifié ses opinions à celles de ses supérieurs, il demeura dans les termes de la plus rigoureuse orthodoxie, tout en sachant que la seule manifestation de ses principes lui fermait le chemin de l'épiscopat. Ce prêtre éminent offrait la réunion d'une grande modestie chrétienne et d'un grand caractère. Sans orgueil ni ambition, il restait à son poste en y accomplissant ses devoirs au milieu des périls. Les libéraux de la ville ignoraient les motifs de sa conduite. Il s'appuyait de ses opinions et le comptait comme un patriote, mot qui signifie révolutionnaire dans la langue catholique. Aimé par les inférieurs qui n'osaient proclamer son mérite, mais redouté par ses égaux qui l'observaient, il gênait l'évêque. Ses vertus et son savoir, enviés peut-être, empêchaient toute persécution. Il était impossible de se plaindre de lui, quoiqu'il critiquât les maladresses politiques par lesquelles le trône et le clergé se compromettaient mutuellement. Il en signalait les résultats à l'avance et sans succès, comme la pauvre Cassandre, également maudite avant et après la chute de sa patrie. À moins d'une révolution, l'abbé Dutheil devait rester comme une de ces pierres cachées dans les fondations, et sur laquelle tout repose. On reconnaissait son utilité, mais on le laissait à sa place, comme la plupart des solides esprits dont l'avènement au pouvoir est l'effroi des médiocrités. Si, comme l'abbé de la Menay, il eût pris la plume, il aurait été sans doute comme lui foudroyé par la cour de Rome. L'abbé Dutheil était imposant. Son extérieur annonçait une de ces âmes profondes, toujours unies et calmes à la surface. Sa taille élevée, sa maigreur, ne nuisait point à l'effet général de ses lignes, qui rappelait celles que le génie des peintres espagnols ont le plus affectionnées pour représenter les grands méditateurs monastiques, et celles trouvées récemment par Thorvaldsen pour les apôtres. Presque roide, ses longs plis du visage, en harmonie avec ceux du vêtement, ont cette grâce que le Moyen-Âge a mise en relief dans les statues mystiques collées au portail de ses églises. La gravité des pensées, celle de la parole et celle de l'accent, s'accordait chez l'abbé Dutheil et lui seyait bien. À voir ses yeux noirs, creusés par les austérités et entourés d'un cercle brun, à voir son front jaune comme une vieille pierre, sa tête et ses mains presque décharnées, personne n'eût voulu entendre une voix et des maximes autres que celles qui sortaient de sa bouche. Cette grandeur purement physique, d'accord avec la grandeur morale, donnait à ce prêtre quelque chose de hautain, de dédaigneux, aussitôt démenti par sa modestie et par sa parole, mais qui ne prévenait pas en sa faveur. Dans un rang élevé, ses avantages lui eussent fait obtenir sur les masses cet ascendant nécessaire, et qu'elle laisse prendre sur elle par des hommes ainsi doués. Mais les supérieurs ne pardonnent jamais à leurs inférieurs de posséder les dehors de la grandeur, ni de déployer cette majesté tant prisée des anciens, et qui manque si souvent aux organes du pouvoir moderne. Par une de ces bizarreries qui ne semblera naturelle qu'aux plus fins courtisans, l'autre vicaire général, l'abbé de Grandcourt, petit homme gras au teint fleuri, aux yeux bleus, et dont les opinions étaient contraires à celles de l'abbé Dutheil, allait assez volontiers avec lui, sans néanmoins rien témoigner qui pût lui ravir les bonnes grâces de l'évêque, auquel il aurait tout sacrifié. L'abbé de Grandcourt croyait au mérite de son collègue. Il en reconnaissait les talents. Il admettait secrètement sa doctrine et la condamnait publiquement. Car il était de ces gens que la supériorité attire et intimide, qui la haïssent et néanmoins la cultivent. « Il m'embarrasserait en me condamnant », disait de lui l'abbé Dutheil. L'abbé de Grandcourt n'avait ni ami ni ennemi. Il devait mourir vicaire général. Il se dit attiré chez Véronique par le désir de conseiller une si religieuse et si bienfaisante personne, et l'évêque l'approuva. Mais au fond, il fut enchanté de pouvoir passer quelques soirées avec l'abbé Dutheil. Ces deux prêtres vinrent dès lors voir assez régulièrement Véronique, afin de lui faire une sorte de rapport sur les malheureux, et discuter les moyens de les moraliser en les secourant. Mais d'année en année, Monsieur Grasselin resserra les cordons de sa bourse, en apprenant, malgré les ingénieuses tromperies de sa femme et d'Aline, que l'argent demandé ne servait ni à la maison ni à la toilette. Il se courrouça quand il calcula que la charité de sa femme coûtait à sa caisse. Il voulut compter avec la cuisinière. Il entra dans les minuties de la dépense et montra quel grand administrateur il était, en démontrant par la pratique que sa maison devait aller splendidement avec 1000 écus. Puis il composa, de clerc à maître, avec sa femme pour ses dépenses en lui allouant 100 francs par mois, et vanta cet accord comme une magnificence royale. Le jardin de sa maison, livré à lui-même, fut fait le dimanche par le garçon de peine, qui aimait les fleurs. Après avoir renvoyé le jardinier, Gracelin convertit la serre en un magasin, où il déposa les marchandises consignées chez lui en garantie de ses prêts. Il laissa mourir de faim les oiseaux de la grande volière, pratiqués au-dessus de la glacière, afin de supprimer la dépense de leur nourriture. Enfin, il s'autorisa d'un hiver où il ne gela point, pour ne plus payer le transport de la glace. En 1828, il n'était pas une chose de luxe qui ne fût condamnée. La parcimonie régna sans opposition à l'hôtel Gracelin. La face du maître, améliorée pendant les 3 ans passés près de sa femme, qui lui faisait suivre avec exactitude les prescriptions du médecin, redevint plus rouge, plus ardente, plus fleurie que par le passé. Les affaires prirent une si grande extension que le garçon de peine fut promu, comme autrefois le maître, aux fonctions de caissier, et qu'il fallut trouver un Auvergnat pour les gros travaux de la maison Gracelin. Ainsi, 4 ans après son mariage, cette femme si riche ne put disposer d'un écu. À l'avarice de ses parents succéda l'avarice de son mari. Madame Gracelin ne comprit la nécessité de l'argent qu'au moment où sa bienfaisance fut gênée. Au commencement de l'année 1828, Véronique avait retrouvé la santé florissante qui rendit si belle l'innocente jeune fille assise à sa fenêtre dans la vieille maison, rue de la Cité. Mais elle avait alors acquis une grande instruction littéraire. Elle savait et penser et parler. Un jugement exquis donnait à son trait de la profondeur. Habituée aux petites choses du monde, elle portait avec une grâce infinie les toilettes à la mode. Quand, par hasard, vers ce temps, elle reparaissait dans un salon, elle s'y vit, non sans surprise, entourée par une sorte d'estime respectueuse. Ce sentiment et cet accueil furent dus aux 2 vicaires généraux et aux vieux grosses têtes. Instruit d'une si belle vie cachée et de bienfaits si constamment accomplis, l'évêque et quelques personnes influentes avaient parlé de cette fleur de piété vraie, de cette violette parfumée de vertu, et il s'était fait alors, en faveur et à l'insu de Madame Gracelin, une de ces réactions qui, lentement préparées, n'en ont que plus de durée et de solidité. Ce revirement de l'opinion amena l'influence du salon de Véronique, qui fut dès cette année hanté par les supériorités de la ville. Et voici comment. Le jeune vicomte de Granville fut envoyé, vers la fin de cette année, en qualité de substitut au parquet de la cour de Limoges, précédé de la réputation que l'on fait d'avance en province à tous les Parisiens. Quelques jours après son arrivée, en pleine soirée de préfecture, il répondit à une assez sotte demande que la femme la plus aimable, la plus spirituelle, la plus distinguée de la ville était Madame Gracelin. « Elle en est peut-être aussi la plus belle ?» demanda la femme du receveur général. « Je n'ose en convenir devant vous, » répliqua-t-il. « Je suis alors dans le doute. Madame Gracelin possède une beauté qui ne doit vous inspirer aucune jalousie. Elle ne se montre jamais au grand jour. Madame Gracelin est belle pour ce qu'elle aime, et vous êtes belle pour tout le monde. Chez Madame Gracelin, l'âme, une fois mise en mouvement par un enthousiasme vrai, répand sur sa figure une expression qui la change. Sa physionomie est comme un paysage, triste en hiver, magnifique en été. Le monde la verra toujours en hiver. Quand elle cause avec des amis sur quelques sujets littéraires ou philosophiques, sur des questions religieuses qui l'intéressent, Elle s'anime, et il apparaît soudain une femme inconnue, d'une beauté merveilleuse. Cette déclaration, fondée sur la remarque du phénomène qui jadis rendait Véronique si belle à son retour de la Sainte Table, fit grand bruit dans Limoges, où pour le moment le nouveau substitut, à qui la place d'avocat général était, dit-on, promise, jouait le premier rôle. Dans toutes les villes de province, un homme élevé de quelques lignes au-dessus des autres devient pour un temps plus ou moins l'objet d'un engouement qui ressemble à de l'enthousiasme et qui trompe l'objet de ce culte passager. C'est à ce caprice social que nous devons les génies d'arrondissement, les gens méconnus et leurs fausses supériorités incessamment chagrinées. Cet homme que les femmes mettent à la mode est plus souvent un étranger qu'un homme du pays. Mais à l'égard du vicomte de Granville, ses admirations, par un cas rare, ne se trompèrent point. Madame Grasselin était la seule avec laquelle le Parisien avait pu échanger ses idées et soutenir une conversation privée. Quelques mois après son arrivée, le substitut, attiré par le charme croissant de la conversation et des manières de Véronique, proposa donc à l'abbé Dutheil et à quelques hommes remarquables de la ville de jouer au whist chez Madame Grasselin. Véronique reçut alors 5 fois par semaine, car elle voulut se ménager pour sa maison, dit-elle, 2 jours de liberté. Quand Madame Grasselin eut autour d'elle les seuls hommes supérieurs de la ville, quelques autres personnes ne furent pas fâchées de se donner un brevet d'esprit en faisant partie de sa société. Véronique admit chez elle les 3 ou 4 militaires remarquables de la garnison et de l'état-major. La liberté d'esprit dont jouissaient ses hôtes, la discrétion absolue à laquelle on était tenu sans convention, et par l'adoption des manières de la société la plus élevée, rendirent Véronique extrêmement difficile sur l'admission de ceux qui briguèrent l'honneur de sa compagnie. Les femmes de la ville ne virent pas sans jalousie Madame Grasselin entourée des hommes les plus spirituels, les plus aimables de Limoges. Mais son pouvoir fut d'autant plus étendu qu'elle fut plus réservée. Elle accepta 4 ou 5 femmes étrangères, venues de Paris avec leur mari, et qui avaient en horreur le commérage des provinces. Si quelques personnes en dehors de ce monde d'élite faisaient une visite, par un accord tacite, la conversation changeait aussitôt. Les habitués ne disaient plus que des riens. L'hôtel Grasselin fut donc une oasis où les esprits supérieurs se désennuyèrent de la vie de province, où les gens attachés au gouvernement purent causer à cœur ouvert sur la politique, sans avoir à craindre qu'on répétât leurs paroles, où l'on se moqua finement de tout ce qui était moquable, où chacun quitta l'habit de sa profession pour s'abandonner à son vrai caractère. Ainsi, après avoir été la plus obscure fille de Limoges, après avoir été regardée comme nulle, laide et sotte, au commencement de l'année 1828, Madame Grasselin fut regardée comme la première personne de la ville et la plus célèbre du monde féminin. Personne ne venait la voir le matin, car chacun connaissait ses habitudes de bienfaisance et la ponctualité de ses pratiques religieuses. Elle allait presque toujours entendre la première messe, afin de ne pas retarder le déjeuner de son mari, qui n'avait aucune régularité mais qu'elle voulait toujours servir. Grasselin avait fini par s'habituer à sa femme en cette petite chose. Jamais Grasselin ne manquait à faire l'éloge de sa femme. Il la trouvait accomplie, elle ne lui demandait rien. Il pouvait entasser écu sur écu et s'épanouir dans le terrain des affaires. Il avait ouvert des relations avec la maison Brézac. Il voguait par une marche ascendante et progressive sur l'océan commercial. Aussi, son intérêt surexcité le maintenait-il dans la calme et enivrante fureur des joueurs attentifs aux grands événements du tapis vert de la spéculation. Pendant cet heureux temps, et jusqu'au commencement de l'année 1829, Madame Grasselin arriva, sous les yeux de ses amis, à un point de beauté vraiment extraordinaire, et dont les raisons ne furent jamais bien expliquées. Le bleu de l'iris s'agrandit comme une fleur, et diminua le cercle brun des prunelles. en paraissant trempée d'une lueur moite et languissante, pleine d'amour. On vit blanchir, comme un fait à l'aurore, son front illuminé par des souvenirs, par des pensées de bonheur, et ses lignes se purifièrent à quelques feux intérieurs. Son visage perdit ses ardents tons bruns qui annonçaient un commencement d'hépatite, la maladie des tempéraments vigoureux, ou des personnes dont l'âme est souffrante, dont les affections sont contrariées. Ses tempes devinrent d'une adorable fraîcheur. On voyait enfin souvent, par échappé, le visage céleste digne de Raphaël, que la maladie avait encrouté comme le temps encrasse une toile de ce grand maître. Ses mains semblèrent plus blanches, ses épaules prirent une délicieuse plénitude, ses mouvements jolis et animés rendirent à sa taille flexible et souple toute sa valeur. Les femmes de la ville l'accusèrent d'aimer Monsieur de Granville, qui d'ailleurs lui faisait une cour assidue, et à laquelle Véronique opposa les barrières d'une pieuse résistance. Le substitut professait pour elle une de ces admirations respectueuses à laquelle ne se trompaient point les habitués de ce salon. Les prêtres et les gens d'esprit devinèrent bien que cette affection, amoureuse chez le jeune magistrat, ne sortait pas des bornes permises chez Madame Graslin. Lassé d'une défense appuyée sur les sentiments les plus religieux, le vicomte de Granville avait, à la connaissance des intimes de cette société, de faciles amitiés qui, cependant, n'empêchaient point sa constante admiration et son culte auprès de la belle Madame Graslin, car tel était en 1829 son surnom à Limoges. Les plus clairvoyants attribuèrent le changement de physionomie, qui rendit Véronique encore plus charmante pour ses amis, aux secrètes délices qu'éprouve toute femme, même la plus religieuse, à se voir courtisée, à la satisfaction de vivre enfin dans le milieu qui convenait à son esprit, au plaisir d'échanger ses idées et qui dissipa l'ennui de sa vie, au bonheur d'être entouré d'hommes aimables, instruits, de vrais amis dont l'attachement s'accroissait de jour en jour. Peut-être eût-il fallu des observateurs encore plus profonds, plus perspicaces ou plus défiants que les habitués de l'hôtel Graslin, pour deviner la grandeur sauvage, la force du peuple, que Véronique avait refoulée au fond de son âme. Si quelquefois elle fut surprise, en proie à la torpeur d'une méditation ou sombre ou simplement pensive, chacun de ses amis savait qu'elle portait en son cœur bien des misères, qu'elle s'était sans doute initiée le matin à bien des douleurs, qu'elle pénétrait en des sentines où les vices épouvantaient par leur naïveté. Souvent le substitut, devenu bientôt avocat général, la gronda de quelques bienfaits intelligents que, dans le secret de ses instructions correctionnelles, la justice avait trouvé comme un encouragement à des crimes ébauchés. « Vous faut-il de l'argent pour quelques-uns de vos pauvres ?» lui disait alors le vieux Grosse-Tête en lui prenant la main. « Je serai complice de vos bienfaits. Il est impossible de rendre tout le monde riche, » répondait-elle en poussant un soupir. Au commencement de cette année, arriva l'événement qui devait changer entièrement la vie intérieure de Véronique et métamorphoser la magnifique expression de sa physionomie, pour en faire d'ailleurs un portrait mille fois plus intéressant aux yeux des peintres. Assez inquiet de sa santé, Graslin ne voulut plus, au grand désespoir de sa femme, habiter son rez-de-chaussée. Il remonta dans l'appartement conjugal où il se fit soigner. Ce fut bientôt une nouvelle à Limoges que l'état de Madame Graslin. Elle était grosse. Sa tristesse, mélangée de joie, occupa ses amis qui devinèrent alors que, malgré ses vertus, elle s'était trouvée heureuse de vivre séparée de son mari. Peut-être avait-elle espéré de meilleures destinées depuis le jour où l'avocat général lui fit la cour, car il avait déjà refusé d'épouser la plus riche héritière du Limousin. Dès lors, les profonds politiques qui faisaient entre deux parties de whist la police des sentiments et des fortunes avaient soupçonné le magistrat et la jeune femme de fonder sur l'état maladif du banquier des espérances presque ruinées par cet événement. Les troubles profonds qui marquèrent cette période de la vie de Véronique les inquiétudes qu'un premier accouchement cause aux femmes, et qui, dit-on, offre des dangers alors qu'il arrive après la première jeunesse, rendirent ses amies plus attentives auprès d'elle. Chacun d'eux déploya 1000 petits soins qui lui prouvèrent combien leurs affections étaient vives et solides.